journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est donc la libre antenne du JDA. Vous pouvez vous exprimer sur les sujets de votre choix. Un petit coup d'œil du côté du Standard pour vous dire que nous reviendrons sur le sommet de l'Assemblée Générale plutôt de l'ONU à New York, mais aussi sur l'arrestation, la détention d'un militaire français à Dakar. Venez vous exprimer sur les sujets de votre choix. Pour cela, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Avant de vous écouter en direct, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour un aperçu des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Allô, oui, bonjour, je m'appelle Pierrette. C'est juste avant la nouvelle de ma soeur Fatou Birama, ça fait longtemps. On a passé une nouvelle, c'était sûr. Et vous pouvez nous donner un peu ces nouvelles, s'il vous plaît. Merci. Et je salue tout le monde de Africa numéro 1. Je vous félicite de tout ce que vous faites. Grâce à vous, nous avons les nouvelles du pays et nous sommes comme au bled. Allez, gros bisous à tous. Merci d'avance et merci d'avance de m'avoir donné une nouvelle de ma soeur Fatou Birama. Allez, au revoir.
Hello, bonjour, Madame Ekman. Comme quoi, il y a certains auditeurs qui disent qu'il faut que l'armée européenne qui vient nous aider contre les terroristes. Je dis bien notre armée africaine, en général l'Afrique de l'Ouest, qui peut faire face à cette fléau si vraiment on a donné des moyens à cette armée. Je veux dire d'abord les cas du Mali et, chers auditeurs, quand l'ambassade de la France qui est au Mali a été attaquée, a été stoppée par l'armée malienne et les polices et les gendarmes. Donc si le pays européen, particulièrement la France, qui vont nous aider. Et il ne faut pas qu'ils nous aident avec le mot politique. Et sur les terrains, ils sont à côté de gens qui font du mal. Donc, on ne se sort pas jamais. Donc, ça fait deux fois que j'ai laissé des messages, c'est pas passé. Je ne me plains pas, j'adore Africa numéro 1.
Bonjour. Juste pour revenir sur les propos ignobles et inacceptables de ce crétin de rappeur, véritable ignare de l'histoire de France et qui se croit aux USA. Il est temps pour la communauté immigrée de créer une association chargée de protéger son image en France, en écartant bien avant leur apparition les individus qui portent atteinte à cette image-là, comme ce rappeur probablement manipulé par l'extrême droite ou comme les djihadistes. Le peuple français est le peuple le moins raciste du monde et le racisme français a une toute autre origine. Si on continue sur cette voie, bientôt ce ne sont ni les Francs-Moisins, ni le Lutte, ni les cités Balzac, ni les Tartarets, ni la cité de la Borne Blanche à Grigny qui seront ghettoisés et stigmatisés, mais tout individu noir ou basané, qu'il s'appelle Mamadou, Farid ou Jacques. Merci.
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Je tiens à revenir sur la question des élections au Cameroun et simplement je me demande, avec cette pléiade d'opposants, je me demande à quel moment, quand ils parlent du président actuel qui se représente. Oui, là, pour la septième fois, je vous le concède, mais qui se représente. Mais à quel moment est-il sorti des clous de la loi? Parce que je ne comprends pas. Et d'autre part, quand on parle de jeunesse, quand on parle d'ambition, de projet, c'est bien beau. Mais encore faut-il que cette jeunesse ne soit pas synonyme, n'est-ce pas, d'ignorance. Parce que lui, il a de l'expérience, par contre. Et en termes d'ambition et de projet, je tiens à préciser quand même qu'il ne suffit pas d'avoir ambition et projet pour prétendre à quoi que ce soit. C'est Encore faudrait-il qu'ils soient les bons. Alors, mes chers frères, je vous invite à faire le meilleur choix. Présentez-vous aux urnes, en votre âme et confiance, vous mettez-vous voter RDPC. J'en suis certain. Au revoir et merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Alors, des nouvelles de Fatou Birama, vous la retrouverez dès lundi pour ses pensées à l'antenne dans Ambiance Africa avec Alex Satiam à partir de 10h20. Elle a bien eu tous vos messages. Elle vous remercie. Elle vous remerciera de vive voix, bien sûr. Lundi, voilà, vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde. N'oubliez pas l'indicatif 00 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, vendredi, c'est la libre antenne du journal des auditeurs. C'est vous qui faites le sommaire. On commence sans plus tarder cette libre antenne avec Thierno depuis Conakry. Thierno, bonjour. Ah, malheureusement, je pense que les dieux des communications ne vont pas être avec nous à Conakry. Bonjour Thierno, est-ce que vous m'entendez? Non, malheureusement non. Bon, alors Thierno, on va peut-être essayer de le rejoindre un peu plus tard, hein, mais Thierno voulait nous parler de la 73e Assemblée Générale de l'ONU et plus particulièrement des dirigeants africains. Hein. Il nous dit, Thierno, c'est du pur tourisme, des gaspillages de nos chefs d'État se déplacent avec une cinquantaine de personnes. Voire plus, loge dans des hôtels les plus chers de New York. C'est très dommage. Alors que pensez-vous, hein, chers auditeurs, justement, de cette 73e Assemblée Générale et du rôle des discours des présidents africains? Est-ce que vous les avez suivis? 01 55 07 58 00. Hosanna, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les auditeurs de la JDA.
Bonjour Hosanna, alors merci de vous être inscrit pour cette libre antenne. Vous vouliez revenir sur ce militaire français incarcéré à Dakar pour coups et blessures. Hein. Il est soupçonné d'avoir frappé à la tête un jeune entrepreneur sénégalais, hein, Oumar Watt, qui est depuis 10 jours dans le coma hein, et souffre de multiples contusions. Qu'en pensez-vous Hosanna de ce fait divers, dirons-nous, hein, de cette bagarre à Dakar entre des militaires et des Dakarois? Le militaire a porté plainte hein, pour vol, hein, mais plusieurs proches de la victime affirment que ce sont plutôt les militaires français qui ont commencé. Alors, Hosanna, on vous écoute.
Moi, je voudrais dire tout simplement que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, si ces militaires français ont commis la faute, la justice doit normalement faire son travail. Et que bon, si il est coupable ou s'il est, on le reconnaît vraiment fautif, il doit purger la peine. Mais ce que je déplore, il ne faut pas que, comme on connaît la mentalité des Occidentaux, il ne faut pas que les autorités françaises interviennent et que ces militaires soient libérés sans que soit qu'ils soient jugés ou condamnés. Donc, j'interpelle surtout les autorités et la justice sénégalaise à accomplir normalement son devoir sur ces militaires qui a. Parce que c'est anormal. S'ils soupçonnent la personne de vol, il doit essayer d'envoyer la convocation.
Le militaire a porté plainte pour vol, mais selon hein, le récit de certains témoins, hein, ce sont les militaires qui seraient arrivés dans un bar un peu ébréché, en civil hein, d'ailleurs, qui auraient commencé à draguer une jeune femme et certains ont essayé de s'opposer à cette drague, ce qui a déclenché la bagarre. Les faits se sont déroulés le 16 septembre hein, au petit matin. Est-ce qu'on peut s'interroger le fait qu'il faille attendre 10 jours pour que le militaire soit arrêté?
Bon, comme vous savez, en Afrique, la justice existe que de nom. Et donc peut-être c'est une façon de nous flatter et puis après l'affaire serait sans suite. Donc, si on voit que ces militaires ont tort, moi, ce que je demande, c'est que les autorités ou la justice fassent normalement son travail.
Bien sûr. Hosanna, vous êtes à N'Djamena, vous? C'est bien ça?
Oui, je suis à N'Djamena.
Il y a des bataillons français chez vous, non?
Oui.
Comment ils se comportent, les militaires français à N'Djamena?
Bon, ces militaires se comportent vraiment très mal à l'égard de la population surtout les habitants de N'Djamena, parce qu'ils se croient, bon, les saints ou les dieux, je ne sais pas, ils ne donnent pas de valeur à la population ou aux autochtones. Donc moi, je crois que c'est leur comportement n'est pas vraiment normal et ce n'est pas juste. Donc ici, c'est pas leur pays. Ils sont dans un pays étranger, donc ils doivent se conformer aux règles et aux principes de ces pays et non pas se croire au-dessus de la loi. Je pense que c'est ce qui est anormal. Si vous savez, si c'est un Africain qui a frappé un Français, vous savez à peu près le sort de cet Africain. Peut-être on ne va pas savoir son trace. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout que ces gens-là se comportent normalement à l'égard, parce qu'on a des textes et des lois ici en Afrique. Donc, il faut qu'ils se. Leur mission, ce n'est pas de venir en Afrique et faire des désordres sur la population. Ils ont une mission déterminée. Ils ont des droits et des devoirs, donc je pense qu'ils doivent se conformer aux règles et aux principes des pays où ils se trouvent.
Et ne pas se comporter, agir hein, comme s'ils étaient en terrain conquis. N'hésitez pas à venir réagir à ce que vous venez d'entendre, 01 55 07 58 00. Merci Ozana hein, de votre participation à cette libre antenne. On va retrouver Monsieur Mata, auditeur fidèle du journal des auditeurs. Monsieur Mata, bonjour.
Bonjour, madame Stéphane Atman.
Bonjour, monsieur Mata. Vous vouliez revenir sur la situation à Beni, hein, qui ne cesse de connaître des massacres. D'ailleurs, hein, le président Joseph Kabila est intervenu à l'ONU. Il a parlé de Beni, mais il s'est trompé. Il a évoqué le massacre du 23 septembre, alors que le massacre avait eu lieu le samedi 22. Que pensez-vous de cette erreur de Kabila, monsieur Mata?
Bon, Kabila a toujours fait des erreurs. Hein. Kabila a toujours fait des erreurs concernant la situation du pays. D'abord, ce qui se passe dans l'est de la RDC, sur la ville de Beni. D'abord, c'est quoi le problème? Nous avons un grand problème d'abord dans notre pays, c'est l'occupation qui est là depuis 1997. Alors, et surtout, alors vous m'entendez?
Oui, monsieur Mata, je vous écoute, surtout.
Et surtout, la RDC n'a pas l'armée. Moi, je me rappelle, à l'époque de Mobutu, on avait l'armée, forces armées zéroises, qui formaient des militaires africains, angolais, tchadiens, togolais. Mais là, ce n'est pas le cas, parce qu'on a la FARDC, qui est forces armées rwandaises, congolaises, qui est là. Donc, tout ce qui se passe à l'est de la RDC, le coupable numéro un, c'est Kabila. Et surtout, l'armée est commandée par James Kabarebe. Tous les officiers congolais qui sont là, c'est que des caporaux. Les généraux, c'est des officiers rwandais. Donc le pays va être toujours en chaos. Le pays va être toujours en chaos, madame Stéphane Atman. C'est regrettable.
C'est très clair, monsieur Mata. On se souvient hein, quand même qu'à la tribune de l'ONU, hein, Joseph Kabila a réaffirmé la date du 23 décembre pour la tenue d'élections auxquelles il n'est pas candidat. 01 55 07 58 00. On avait quelqu'un, Youssouf, qui voulait revenir sur la situation à Dakar, mais la ligne a coupé. On va peut-être le rappeler. Avant cela, on va retrouver Abdelwassi, élection au Bénin. Abdelwassi, bonjour.
Bonjour Stéphanie, comment vous allez?
Ça va très bien, et vous-même?
Et parfait, on a commencé par porter un petit léger manteau, parce que on sent notre saison qui s'en vient là.
Ah oui. Et puis chez vous à Montréal, ici en France on se plaint dès qu'il fait à peine 0 degré, voire 10 degrés, mais chez vous ça descend très bas hein, l'hiver.
Non, oui mais ça descend très bas, mais là encore c'est acceptable là. Ça descend très bas, quand c'est froid, quand c'est chaud ici.
Il n'y a pas de demi-mesure.
On est dans les deux extrêmes. Là.
Exactement. Alors, Abdelwassi, élection au Bénin, pas élection au Bénin, plutôt code électoral au Bénin, vous vouliez
oui,
parler.
Code électoral au Bénin, parce que les gens colportent beaucoup d'informations de façon partielle et on ne dit pas globalement les choses. Parce qu'on parle de 250 millions de cautions pour le candidat à la présidentielle et 249 millions. C'est pour les législatifs. Les législatifs, là, ça concerne la liste électorale. Vous savez, au Bénin, nous avons 83 députés. Et une liste de 83 députés avec 83 suppléants, c'est l'ensemble de cette liste-là qui doit donner cette caution. Et c'est parce que les gens disent, on veut éliminer cette telle. Parce que ce n'est pas pour éliminer les gens, c'est beaucoup plus les discipliner à la chose, parce que il y a trop de fantaisies dans ce Bénin-là. Et même pour les candidats, pour les 250 millions pour les présidentielles, ce n'est pas une personne qui va payer. Parce qu'on est en train d'aller dans les grands ensembles. Il y a la cause des partis politiques qui est fautée. Pour éliminer des partis émiettés, on a jusqu'à 250, 260 partis politiques au Bénin. Alors que pour qu'on fasse travailler les gens pour faire des bulletins qui à des longueurs infinies, quand il n'y a rien, il vaut mieux qu'on se discipline. Chacun va pouvoir se trouver dans des grands ensembles de partis. Mmh. Et dans ces grands ensembles de partis, il n'y aura pas de père fondateur qui va dire c'est pour moi. Et quand tu as une opinion différente de lui, il faut qu'on te sorte du parti.
Mais quels sont les moyens au Bénin, Abdelouassi, de payer près de 400 000 euros pour une caution à l'élection présidentielle?
Le montant est élevé, c'est comme je vous dis. Mmh. C'est juste une
Les partis, comment sont financés les partis politiques au Bénin?
Exactement, justement, la loi est allée dans le sens où c'est l'État qui finance les partis politiques. Parce que cet argent-là, finalement, c'est l'État qui va le payer. C'est l'État qui finance les partis politiques. Et dans ce financement-là, que ce paiement-là va être fait comme caution. Donc, les partis, qui sait qu'il va avoir sur l'argent pour éduquer ses professeurs, ses partisans, c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec son argent et comment il va orienter ses partisans. Mmh. Parce qu'au lieu qu'on donne, parce qu'on dit, l'État va financer les partis politiques, tout le monde va créer des partis en désordre, l'État ne pourra supporter 250 partis, 300 partis. Mmh. Donc, quand il y a des grands ensembles, ça permet de les concrétiser dans des grands lots et on sait où va l'argent. On sait qu'on sait que tu fais avec l'argent. Et une caution, quand tu réussis, quand tu as un pourcentage, on te retourne ta caution. C'est juste une caution.
Une caution, oui, voilà. Si vous atteignez quelques, peut-être autour des 5%, cette caution est rendue. Vous voyez donc comme une bonne chose ce nouveau code électoral, Abdelouassi, hein, depuis Montréal. Vous allez au travail, là, Abdel, peut-être? Non?
L'idée est très bonne. Il faut quand même qu'on puisse regarder vraiment en fonction du coût de la vie du pays. Et beaucoup de choses, pour qu'il n'y ait pas des gens qui sont vraiment éliminés à cause de l'argent.
Voilà, c'est une bonne conclusion, Abdel. J'avais une question un peu de curiosité, Abdel. Vous allez au travail, là?
Oui.
Je vous entends marcher, voilà. Vous faites quoi, sans indiscrétion?
Ben oui. Je suis en route pour aller au travail, c'est ça.
Vous travaillez dans quoi?
Dans le génie civil.
D'accord.
Dans le génie en civil.
Bon, et bon courage à vous, hein, pour cette journée de labeur. C'est bientôt le week-end.
Mais oui, on est content qu'on est à vendredi, là.
Exactement. Bon week-end à vous, Abdel, et bon courage. Merci de votre participation à cette libre antenne. On salue, hein, d'ailleurs, tous les Montréalais, j'imagine, qu'on se mette ça, le gentillet. Merci encore à Abdel. On va parler désormais des élections au Cameroun avec Serge le 7 octobre prochain. Les Camerounais sont appelés aux urnes, hein, pour élire leur prochain président lors d'un scrutin à un tour. Bonjour Serge.
Oui, bonjour Madame Arman.
Alors, cette élection au Cameroun, vous avez entendu l'auditeur sur le répondeur qui disait finalement il n'y a que le candidat Paul Biya qui peut être à la hauteur des enjeux du Cameroun.
Oui, effectivement. Allô?
Oui, allô, on vous écoute.
J'ai pas bien entendu ce que vous m'aviez dit à l'instant.
Excusez-moi, je parlais du message. Je sais pas si vous aviez entendu le message qui est passé tout à l'heure sur le répondeur d'un auditeur qui appelait à voter RDPC en disant voilà, seul Paul Biya avait l'expérience nécessaire et que la jeunesse n'était pas signe de réussite.
Oui, effectivement, Madame Stéphanie, moi, j'ai Madame Arman, j'ai écouté les différents candidats de l'opposition. Et je vous avoue que je reste je suis un peu perplexe parce que aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC, est le parti le plus structuré, en fait, au Cameroun. C'est-à-dire que dans tous les villages du Cameroun, dans toutes les villes, les grandes, les petites villes, les moyennes, vous retrouvez le RDPC. Or, aujourd'hui, on n'a pas cette structure par rapport aux autres partis. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que moi, je suis pour le changement. Je suis pour le changement, mais je me suis rendu compte, en fait, il faut être pragmatique à un moment donné dans sa vie. Je me suis rendu compte que, qu'on le veuille ou pas, le président Paul Biya gagnera ses élections. Il sera réélu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous expliquais tantôt, c'est celui qui est le parti le mieux structuré, c'est celui qui a plus d'argent. Et quand j'entends les opposants, en fait...
Il y avait une émission hier sur l'antenne d'Africa numéro 1, dans le grand débat, hein, un débat justement entre plusieurs représentants du candidat et le MRC hein, de Maurice Kamto, justement, revendiquer ce maillage aussi sur l'ensemble du territoire.
Oui, mais c'est pas vrai, parce que quand ils vous disent qu'ils sont bien implantés, c'est pas vrai. Eux, c'est souvent par région. Et c'est souvent en fonction, parce que ce que les gens oublient de dire au Cameroun, c'est que vous verrez la plupart des électeurs de l'opposition, il y a une question, moi j'appelle pas ça du racisme, c'est pas du racisme, comment on appelle ça ? C'est-à-dire du tribalisme, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent par rapport à un candidat qui vient de leur région. Or, le seul candidat, je vous le dis, moi je vous le dis, Madame Harman, je voudrais un changement au Cameroun, mais nous ne sommes pas prêts pour l'instant, mais le seul candidat qui... peut se prévaloir d'avoir justement un large soutien dans tout le pays, c'est Paul Biya. Aujourd'hui, je vous explique quelque chose. C'est-à-dire que vous avez un candidat, Monsieur Matomba, que j'ai écouté, que je connaissais pas d'ailleurs, qui dit quand même des choses. Quand je l'entends parler, il a tout à fait raison. Il disait que il faut changer les mentalités au Cameroun. Et je pense que il disait que s'il était élu, ça sera sa première mission. Mais aujourd'hui, je vous dis. Qu'on le veuille et qu'on le veuille ou pas, le président Biya gagnera, mais seulement les opposants doivent se dire une chose. Il faut pas qu'on appelle à la haine. Il faut pas qu'on appelle à la vengeance, se dire, oh, il a triché. C'est pas vrai. Moi, je vous dis, je suis pour le changement. J'aimerais bien qu'il laisse la place. Mais aujourd'hui,
il va gagner. On a bien compris, Serge. Je pense que ce que vous venez de dire, hein, finalement, c'est qu'effectivement, vous êtes l'un des partisans du changement au Cameroun après plus de 35 ans de Paul Biya. Mais vous êtes lucide, hein, pragmatique. Vous avez dit, ce sera Paul Biya qui va gagner. Merci, Serge, de votre intervention. Je vous souhaite une excellente journée et peut-être un bon week-end. Continue de vous écouter pour la libre antenne. Je regarde du côté des timings. Il y a Jean-François qui attend depuis quelques temps. Bonjour, Jean-François.
Oui, bonjour.
Vous voulez revenir sur la situation à Béni, hein, de la RDC en général?
Oui, parce que ça me touche très profondément. Parce que hier, j'ai suivi certaines personnes qui sont passées sur les antennes parlant un peu de la situation à Béni. Mais je me suis rendu compte qu'on joue un peu à la politique d'Autriche. On arrive souvent à se voiler la face. Le problème de Béni, c'est Kabila. Le problème du Congo, c'est Kabila. Kabila, c'est lui le problème. Tant qu'il est au pouvoir, il ne pourra jamais trouver des solutions parce qu'il est le problème. Parce que le gouvernement en place est au courant de ce qui se passe à Béni depuis très longtemps. Mais jamais ils ont pris de solutions appropriées pour essayer de maintenir cette situation-là. Ils font des discours, ils font des déclarations, mais ils ne prennent pas des décisions correctes, exactes, pour que la situation à Béni puisse s'améliorer. Le problème, c'est Kabila qui est en mèche avec les gens qui se font de terreur là-bas. L'armée congolaise qui sort ses muscles quand il s'agit de mater la population qui manifeste pacifiquement à Kinshasa. Mais là où il y a la guerre, on ne voit pas cette armée. Pourquoi on ne voit pas cette armée?
Ça fait 20 ans, hein, Jean-François, tout à l'heure, M. Matta le rappelait, hein, puisque c'était la date de 97, hein, ça fait 20 ans maintenant qu'il y a un conflit, disons, peut-être de basse intensité hein, dans l'est de la RDC. Notre auditeur, notre invité cette semaine, Rodriguez Katsouva, a rappelé qu'il y a environ 90 groupes armés qui sévissaient dans la région. Merci Jean-François de votre participation à cette libre antenne. Un petit tour du côté du standard. On va écouter Guy, AZ et Diomo de Beng pour finir. Guy, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Vous vouliez revenir, Guy, sur cette candidature hein, de l'ancien Premier ministre français Manuel Valls à Barcelone, en Catalogne.
Exactement. Je ne suis pas un grand adepte de la politique. Je n'ai pas souvenir de quelqu'un qui s'est présenté dans un pays et de l'autre côté, il n'a pas réussi à vouloir se présenter de l'autre. Donc je me dis, ce monsieur-là, à mon avis, je pense qu'il doit avoir du sang des dinosaures qui soutiennent le pouvoir en Afrique en ce moment, parce que je pense que c'est ce qu'on appelle être opportuniste, non, en politique. Ça ne marche pas en France. Donc comme il est espagnol, la nationalité espagnole, il se présente à Barcelone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
C'est sa ville natale, Barcelone. Je crois pas qu'il ait la nationalité espagnole, mais c'est sa ville natale. Voilà.
D'accord. Mais je pense que quand on se présente en politique pour briguer des postes vraiment importants pour le peuple, je pense que c'est parce qu'on a l'amour ou on est patriote, je pense.
Mais est-ce que cette initiative, cette candidature de Manuel Valls, Guy, si jamais il revenait en France, il serait totalement discrédité? Est-ce que ça le coupe de toute politique en France?
Ah ben, bien sûr que ça le coupe de toute politique. Ça me fait penser à... à Lionel Jospin quand il avait échoué. Au lieu de continuer à se battre, il avait baissé les bras. Et voilà, jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, le PS, ouais. Le PS en paye les prix. Ouais. Voilà. Emmanuel Valls, excusez-moi, mais on est encore une preuve qui est en train de grandir parce que ça n'a pas réussi ici, donc je vais me présenter de l'autre côté. Voilà les personnes qui nous conduisent. Et je pense qu'il est arrière-petit-fils de celui qui est au pouvoir bientôt 30 ans, qui va encore se présenter. Malheureusement, c'est ce qui continue. Voilà.
Merci Guy. Merci de votre intervention,
Guy.
Portez-vous bien aussi. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, messieurs, mesdames. Hein, ça vous évite de patienter des dizaines de minutes au standard. Voilà, comme ça, on pourrait imaginer vous appeler de manière échelonnée. Je rappelle que pour s'inscrire, il faut laisser un message et son numéro de téléphone sur le répondeur ou envoyer un mail jda@africain.com. AZ, bonjour.
Bonjour madame Stéphanie Hartmann, comment allez-vous?
Oui, mais que, quand je vous entends, je vais très bien. Bonjour AZ.
Ça me fait plaisir. Bon, moi, je voudrais parler du Bénin.
Oui, de réagir par rapport à la caution.
Voilà, exactement, par rapport à la caution. La caution, effectivement, est très élevée. Moi, je vois là, c'est quand même une démesure, un dérapage plutôt. Et, mais c'est une stratégie pour monsieur Patrice Talon. Stratégie dans deux sens. Je m'explique rapidement. C'est-à-dire là, il oblige les députés actuels, les anciens gouvernements, c'est-à-dire les anciens ministres qui vont se présenter aux élections présidentielles, il les oblige à vendre des biens mal acquis pour pouvoir se présenter. Et finalement, naturellement, ils vont perdre. Et toutes ces personnes qui vont perdre 250 millions, ce qui permettra à lui de placer que des gens fortunés, des gens qui ont vraiment les moyens. Je le vois passer les 250 millions à ses fidèles. C'est-à-dire, ses fidèles, là, il est lui, puisqu'il a les moyens de financer toutes ces personnes-là. Et c'est ces personnes, finalement, qui seront élues comme futurs députés ou qui sera élu comme président.
Ça crée une sélection, hein, par l'argent, c'est ce qu'on essayait de dire hier dans l'émission. Ça crée des obstacles. Merci AZ.
C'est dommage, mais bon.
La loi est adoptée, hein, peu de recours.
Oui, hein, oui, elle est adoptée, hein, très vite.
Merci AZ. Bon week-end à vous. Bonne journée. Hein. En tout cas, bonne journée. Voilà. Peut-être que vous travaillez ce week-end. On va finir cette libre antenne avec Diomo de Beng. Bonjour, Diomo de Beng.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous vos auditeurs. Stéphanie, je commence cette émission avec les larmes aux yeux pour mon pays.
Bah, vous la terminez surtout, Diomo de Beng.
Oui, je suis vraiment désolé pour mon pays, mais j'ai les larmes aux yeux à la veille de ces élections couplées municipales et régionales, Stéphanie. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire avec ses appels à la haine, quand vous regardez la Côte d'Ivoire avec ses candidats qui n'ont pas de programme, mais qui n'ont que de la haine dans le cœur pour leur semblable ou pour leurs concurrents. Stéphanie, vous voyez comment la Côte d'Ivoire est en train de partir à gauche, alors qu'on était bien parti à droite. Je suis sûr et certain, Stéphanie, grâce aux médias, grâce à Africa numéro 1, ils entendront ce que je vais leur dire tout à l'heure. Quand je vais tout récemment à l'émission de Phil Darwin, en écoutant Bloco...
Alors, on arrive à la fin de l'émission, Diomé, mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler ces élections locales en Côte d'Ivoire. Hein, c'est le 13 octobre prochain. Merci à tous de votre participation. J'invite les auditeurs qui patientent au standard à peut-être à laisser un message sur le répondeur 01... 55 07 58 05. Voilà. Merci à tous de votre participation. Hein. N'hésitez pas à continuer la discussion sur notre page facebook.com/journal des auditeurs ou sur Twitter @jauditeur. Allez nous suivre l'actualité de l'émission et nous faire des suggestions. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du JDA. Je vous propose lundi peut-être de revenir sur la francophonie à quelques jours du sommet qui se déroulera en Arménie. En attendant de vous retrouver lundi, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la radio africaine.